Je l'ai allumé après manger. À 14h, c'était la barge russe. Johnny est là en train de parler. Elle me fait de la guitare. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit, j'ai jeté mes disques. Tout contre elle qui est branchée. Ses harmonies m'ont rendu muet. Fatigué, je suis crevé. Toute la nuit j'ai écouté des émissions. Le silence, c'est tellement bon. Johnny et Moussa sans contrefaçon. C'était le moment de la réflexion. 14h05, la quotidienne. Et on se pose des questions. La barge russe, cette femme.
Barge russe 11-97, espoir par Kafka. Selon Kafka. Donc, comme je vous ai dit, et je vous ai dit hier dans l'émission, on va parler de littérature du XXe siècle et du christianisme. J'ai acheté deux gros bouquins là-dessus. C'est en trois volumes, mais le premier ne m'intéressait pas, les auteurs. Là, il y a différents auteurs. Kafka, pour les plus connus, Malraux, Vercors, François Sagan, Cholokov. En tout cas, moi, je vais faire Kafka. Et l'autre, on verra plus tard. Dans l'autre, il y a Huxley. Ça m'intéressait de voir un peu comment ça allait de son côté. Il y en a un autre aussi, je ne sais plus qui. La génération de Kafka, le premier chapitre. L'espoir par Kafka. Donc c'est assez, vous vous rappelez hier de quoi on parlait, parce que moi je ne m'en rappelle plus. On disait, il fallait se poser des questions en fait. La guerre, elle est en nous. Parce que bon, la guerre que Trump il se fait au monde, ça le regarde quoi. On n'y peut rien. Mais si en lui-même ça allait mieux, s'il n'en voulait pas plus, s'il n'avait pas plus d'appétit de matérialisme, de déterminisme, de tout ce qu'on veut, bah, ça irait mieux pour tout le monde. Comme disait Alain l'utopiste, tout irait bien. C'est bon, ok. Tout irait bien. Alors j'y vais. Alors en particulier, le texte récemment publié montre que la Terre promise n'est pas un autre monde, non plus un au-delà religieux. Elle est située ici-bas. Le messianisme de Kafka est temporel. Si son élan est religieux, son objet ne l'est pas. Sinon en ce sens que pour un juif, la terre, la famille et les enfants, bref, l'enracinement du nomade dans une terre de promission est réalité sacrée. Alors ça c'est de Charles Mueller et ça date des années 50. 57. 1957. Alors, je continue. C'était joli, mais ça n'a pas trop de rapport. Alors voilà. Ensuite, l'expressionnisme fut son tremplin à Kafka. Alors, l'expressionnisme avec Cézanne, Van Gogh, Matisse, par exemple. C'était le mouvement artistique de l'expressionnisme qui aussi part du même chose, du même idée. Plonger dans les profondeurs de la conscience pour une renaissance de la conscience métaphysique et religieuse qui se manifeste depuis la fin du 19e siècle, donc l'expressionnisme. Avec sa génération, Kafka est en relation contre le monde étroit de ses pairs. Il proclame le danger que la bourgeoisie européenne fait courir à la culture. Alors ça, je vais le redire. On va élargir le schéma. Il proclame le danger que la bourgeoisie européenne fait courir à la culture. Il parlait de bourgeoisie européenne. On était début du XXe siècle. Bon, ça revient à ce qu'on disait hier. Avec Alain, qui était en 1936, le bouquin. Les États-Unis n'étaient pas encore l'hédonisme, pas partout, quoi. Donc maintenant, c'est plus la bourgeoisie européenne. Non. C'est le libéralisme américain qui fait courir un grand danger à la culture. D'ailleurs, on voit là, en France, en Grand-France, il y a tout 80 millions d'euros en moins cette année quoi, pour la culture. À mon avis, c'est énorme. Je suis pas dans les comptes, mais bon. Kafka ne suivit le mouvement que tout au début et à part les premiers textes, son style ne fut jamais expressionniste. Une chose est dite, une chose est faite, voilà.
la porte. Il avait écrit retour au bordel.
Retour au porteur par Betty and the Boops, qui, si vous, certains vont vous reconnaître, Return to Sender de Elvis Presley. Oui, mais en français. Donc, c'était pas mal. La translation, l'adaptation était pas mal. Donc, pourquoi Return to Sender? Pourquoi retour à l'envoyer au porteur? Parce que maintenant, je vais faire tout un passage assez long sur son rapport à, le rapport à son père. Que Kafka, Franz, avait. Il y a eu ce fameux texte « Lettre au père » qu'on peut acheter, qui est vraiment très très... Je ne m'en rappelle plus, mais qui est enrichissant. Et donc, je me suis dit, mais non, mais là, il y a un truc énorme. Parce qu'en fait, pour Kafka, à mes yeux, et tel que je comprends plus ou moins dans ce livre, dans ce passage... Le père endosse le rôle d'elle. Alors, elle, c'est quoi? Elle, je l'ai lu dans le Zohar, c'est Dieu. Donc c'est l'hébreu. Franz se ressent ainsi, le ressent ainsi, à travers sa sensibilité. Il ressent son père comme un dieu. Et on le voit, quoi. Il est... il est tout, quoi. Et même si son père le freine, enfin le met en prison, d'une certaine manière, il ne peut que l'admirer. Voilà. Et donc là, je vais vous passer plusieurs... Je vais vous lire plusieurs passages, il y en a pas mal. Parce qu'en réalité, ce qu'a voulu faire Franz Kafka... Enfin, ce qu'il aurait dû faire, c'est ce qu'il a dit, avec l'amour qui aurait pu l'aider justement à dépasser les peurs, les craintes qu'il avait de son père, l'angoisse, eh bien, ce qu'il aurait pu l'aider, bon, c'est passé, c'est qu'en fait, il faut, par quelconque moyen, il faut dépasser, c'est-à-dire se dépasser, il faut dépasser les barrières limites, qui sont fixées par la société, elle, pas par le père. Mais la société a pris la place du père maintenant. Actually. Non, actually, c'est en fait. Now, enfin, maintenant, quoi. Tu vois? Do you understand? Eh ben, it's very good. It's very good. Alors, on revient à l'omniprésence du père, comme il est écrit. Donc, tu étais pour moi la mesure de toute chose. Tu étais tout pour moi. Tu étais mon véritable éducateur, écrit-il. Les instants où se laisse entrevoir le fond de l'être paternel sont de calme et d'immobilité. Le secret de ce père énigmatique est qu'il souffre par ses enfants. Kafka dit « Je n'ai compris que plus tard que tes enfants te faisaient réellement souffrir », écrit Kafka. Cet homme qui souffrait silencieusement avait aussi manifesté sa bonté et sa douceur. Ça, on l'oublie rapidement. Mais bon, donc ensuite, deuxième titre, angoisse et écrasement. La psychanalyse a mis en lumière l'importance du lien père-fils dans le développement d'un être humain. Il y a d'ailleurs, il parle d'Édipe très très rapidement. Donc le rapport père-fils très important pour le développement d'un être humain. Mais bon, si c'est père-fils, c'est pas un être humain, c'est l'homme, particulièrement, l'homme et le garçon. Bah oui. Pas chipoté, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je dis ? Mais je pense que c'est la même chose pour mère-fille. C'est, la relation mère-fille n'est pas la relation père-fille. Non. Mais tout comme mère-fils, bon, ouais. Vous avez compris ? Eh bah tant mieux, c'est bien. Alors, que la tragédie est plus profonde qu'un complexe mal surmonté. Alors, on va voir ça. Comment il a fait, et voilà, on tourne des pages. Je me trouvais lamentable, non seulement en face de toi, mais en face du monde entier, car tu n'étais pour moi la, car tu étais pour moi la mesure de toute chose, dit Kafka à son papa. Ah, papa, c'est pas mal. La suprématie du père était écrasante aussi dans l'ordre du spirituel. De ton fauteuil, tu gouvernais le monde, dit Franz à son papa. Très souvent, les parents mesurent mal leur puissance. Ça, je me suis identifié à ça, pour mieux comprendre. Tout se passait comme si tu ne te rendais pas compte de ta force. Les parents opposent trop souvent une sagesse dite classique, une sorte de lassitude ou simplement leur distraction à ce monde perpétuellement renouvelé, naissant, que les enfants découvrent pour la première fois. Donc quand tu vois ton enfant qui est ébahi devant quelque chose qui, toi, te navre, il ne faut pas que tu montres que tu es navré. Il ne faut pas que tu l'envoies chier. Il ne faut pas que tu l'envoies bouler, ton enfant. Non, il faut que tu sois comme lui, ébahi. Oh, mais ouais, l'eau, ça mouille. Non, j'exagère. Là, c'est très moqueur. Très, très moqueur. Mais c'est pour... Je caricature à fond. Je vais à l'extrême pour que tout le monde comprenne. Mais moi, je serais capable... Ouais, je pense que je serais capable de dire que ouais, l'eau, ça mouille. Et que c'est incroyable. C'est... Mais bon, ils ne sont pas si cons que ça, mais de toute façon. Alors, là où j'étais condamné. Non seulement son imagination avait donné à son père des produits formidables, mais Kafka se sentait damné. Rejeté dans l'oisiveté coupable du canapé, il sombra dans un enfer de silence, de solitude et d'inactivité, dans le sentiment paralysant d'un jugement qui, à travers les murs, épais, le transperçait, le pétrifiait. Son père n'était pas pour lui une curiosité, il lui fallait tout prendre ou tout rejeter d'un père qui n'acceptait pas la discussion, mais jugeait. Et donc là, c'est très poupou. Son père n'était pas pour lui une curiosité, il lui fallait tout prendre ou tout rejeter d'un père qui n'acceptait pas. C'est très absolu, quoi. C'est tout ou rien. Et là, on sait, c'était écrit juste avant, que Kafka est agnostique. Apparemment. Mais non. Il est agnostique. Agnostique, c'est quand tu crois en rien. Moi, je vais vous montrer qu'en fait, si, il croyait en quelque chose. Il était agnostique. Enfin, agnostique, précisément, je ne sais plus si c'est ne croire en aucune religion. Ah, c'est ça, oui. C'est croire en aucune religion. Donc oui, il est agnostique, mais il a une croyance. Un peu comme Nietzsche, quoi.
Well, bartender, it's plain to see I'm the bad motherfucker called Stagger Lee. your name down the way, and I kick motherfucking asses like you every day, Mr. Staggerly. Well, I'd vote for the last words that the barkeep said, 'cause they put four holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. Yeah. She struts across the bar, hitching up her skirt over to Staggerly. She's starting to flirt over Staggerly. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead. Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head. She said, you ain't look like you're scarred in quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime, Mr. Staggerly. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before my man Billy Dilly comes in, Mr. Staggerly. I'll stay here till Billy Dilly comes in, till time comes to pass. And furthermore, I'll fuck Billy Dilly and his motherfucking ass, said Staggerly. I'm a bad motherfucker, don't you know? And I'll crawl over 50 good pussies just to get to one fat boy's asshole, said Staggerly. Just then Billy Billy rolls in, he says, you must be a man motherfucker called Staggerly. I'm Staggerly. Yeah, I'm Staggerly. Get down on your knees and suck my dick, because if you don't, you're gonna be dead, said Staggerly. Well, Billy Billy dropped down and slobbered on his head, and Stig filled him full of lead. Oy.
On a pu écouter Staggerly par Nick Cave. Maintenant, on est plus loin dans le chapitre L'incapacité de vivre. L'arbitraire de l'autorité paternelle se déploie sans contrainte dans un ciel vidé de tout médiateur. Or, dans le subconscient de Kafka, son père représentait une autorité quasi divine, comme je vous disais. Sa toute puissance énigmatique fait penser à certains aspects du Dieu de l'Ancien Testament. Et alors là, quand j'ai lu ça, je me disais, ah ben ouais, c'est bon. C'est ce que je vous ai dit en début de Chronique. Qu'en fait, le père endossait le rôle d'elle, de Dieu. Tu vois, à ses yeux. Qui a fait tous ses mythes, tout ce qu'il a pu. Ben, l'imagination que son père lui a donné. Enfin, lui a donné. Que le ciel lui a donné, quoi. Bon, bref, chacun voit ça comme il veut. Il met les mots qu'il veut là-dessus, en tout cas. Donc, plus loin. Le père de Kafka était devenu pour son fils une réalité énigmatique, impénétrable, irritante et décourageante. Son innocence en devint presque provocante, car l'enfant ne peut pas la saisir. Ouais, en fait, il disait que son père était innocent, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Toujours dans l'incapacité de vivre, un adolescent qui choisit l'indifférence. Dans ce climat d'autopunition et d'angoisse, le choix de la profession ne fut qu'une comédie. Kafka va choisir la carrière qui lui permettra de sauver cette indifférence intérieure qui, du moins, amortissait les coups que la vie lui portait sans cesse. On se demande pourquoi le droit permettait de sauvegarder l'indifférence. Ça, c'est Kafka. Hein. Ouais, parce que dans le droit, faut que tu prennes pas. Enfin, tu peux pas prendre parti. Non. Ben, c'est peut-être ça, alors que comme le droit, tu prends pas parti, ça t'aide à garder ton indifférence en toi que tu réexploites autour de toi. Ben voilà, il fallait qu'il me demande, Charles Moller. Comme j'aurais dit. Hein. Ouais. Alors, plus loin encore toujours. Alors, les textes de 1920-1922 montrent que l'angoisse n'a fait que grandir dans l'âme de Franz Kafka. L'innocence inaccessible du père. Lui mentir est impensable, écrit-il à son père. Angoisse devant l'innocence inaccessible du père. Alors maintenant, dans les tentatives du salut, qui est le chapitre numéro 3, eh bien nous allons débuter. Donc dans l'introduction est-il écrit « Le jugement de culpabilité porté par le père et la société ». Et la société. Le père et la société. Je redis, le jugement de culpabilité porté par le père et la société implique, lui, que le drame de Kafka est né d'une vraie faute morale. Alors là, tu te dis, comment ça se fait? Parce que si le gars, il est apparemment d'un physique assez chétif et qu'il est pas forcément très bien, on l'aide pas à grandir, à évoluer. Je vois pas trop comment est la faute morale. En tout cas, on va continuer, on va savoir. Moi, oui, on va savoir tout de suite. Alors, qui aurait pu être évité? Là, j'ai pas lu jusqu'au bout. Voilà, je vais relire. Est né d'une vraie faute morale qui aurait pu être évité. Ben oui. Si tu accompagnes l'enfant, il n'a pas normalement, il n'a pas à se sentir coupable. Mais par contre, il n'aura peut-être pas fait les chefs-d'œuvre qu'il a écrit, parce que c'est dans le mal-être que la progression, les belles choses sortent. C'est dans le mal-être. Ouais. Il ne s'agit plus cette fois de prouver sa capacité de vivre, par exemple, en se mariant, mais d'établir son innocence devant un tribunal. Mais nous sommes de nouveau au rouet parce que le seul tribunal réel est celui du père. Alors maintenant, le petit sous-chapitre, l'incapacité d'aimer, parce que j'ai sauté tout le chapitre de l'amour. En tout cas. Une vision spirituelle du Dieu vivant, père, fils, esprit, aurait pu aider Kafka à réussir son ancrage spirituel et à vaincre le complexe qui le dévorait vivant. Mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Bah oui, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, et ça, on va faire un petit... attention. Un petit décalage, donc un petit passage temporel, passage dimensionnel. Et là, en fait, j'ai annoté « Avant l'arrivée de la pornographie audiovisuelle ». De la pornographie moderne, quoi. Alors, écoutez. Kafka écrit. Je me rappelle un soir, alors il donne ça à ses parents, à son père sûrement, oui à sa mère, à ses parents en tout cas. Je me rappelle un soir où j'ai fait une promenade avec toi et maman. Non, c'est donc à son père. Je commençais à parler des choses intéressantes. Donc c'est de l'amour, quoi. L'acte sexuel plutôt. Et je le fis bêtement. Sur un ton vantard, en affichant un ton supérieur de la fierté, de l'indifférence, entre parenthèses, ce qui était faux, de la froideur, ce qui était vrai, entre parenthèses, et en bégayant, comme je le faisais généralement quand je te parlais. Je vous fis des reproches parce que vous m'aviez laissé dans l'ignorance, parce que mes camarades de classe avaient été les premiers à se charger de m'instruire et que j'avais côtoyé de grands dangers. Là, je mentais à ma manière, effrontement, à seule fin de me montrer courageux. Ma timidité m'empêchait d'avoir une idée plus précise des grands dangers en question. Alors ça, c'était avant la pornographie, hein, qu'on peut voir partout maintenant. Et pour conclure, je vous fis comprendre que maintenant, j'étais par bonheur instruit de tout, que je n'avais plus besoin de conseils et que tout était rentré dans l'ordre. Donc en fait, avant, c'était les copains, quoi. Les copains, les copines. Enfin, là, les copains, parce que c'est Kafka, les garçons. Ben voilà, c'était ça. C'était comme ça que t'apprenais la pornographie. Enfin, non. Le sexe. Voilà. Passage dimensionnel terminé. À la fin de ce chapitre, les tentatives de salut, est écrit que par rapport à sa nouvelle Le Terrier, que j'ai lu il y a fort longtemps aussi, il dit qu'en fait, dans Le Terrier, c'est une bête qui est dans Le Terrier. Et là, le temps passe dans Le Terrier. Pendant que l'on observe de l'extérieur, que se passe-t-il à l'intérieur ? On est dans un ténébreux refuge pour une pauvre bête traquée. Oui, elle est bien dissimulée, elle est bien cachée. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on va vérifier à l'extérieur si personne n'arrive, en tant que bête? Une bête n'a-t-elle pas réussi à fuir des galeries qui violeraient le silence du terrier? Il faut rentrer dans les couloirs souterrains, refaire et réparer les petits dégâts inévitables, consolider le carrefour central. Quel apaisement! Tout est de nouveau en ordre, et la bête se blottit dans les corridors. Mais à la longue, l'inquiétude reparaît. Sur l'entrée du terrier, il faut sortir encore, guetter, dehors, dedans, d'autant plus que, peu à peu, un bruit monte, résonne dans le silence étouffé des corridors ténébreux. Il se confond d'abord avec le rongement familier de la petite vermine, qui ne fait que peu de dégâts repérables. Mais bientôt, le bruit devient plus fort. Il se situe ici, là, plus loin, en arrière, partout. Et le récit, inachevé et inachevable, nous laisse sur la vision effrayante d'une présence hostile, formidable, anonyme, qui envahit de partout à la fois l'ultime demeure où la bête avait voulu vivre, sans vivre et se cacher aux yeux de tous. Et alors là, angoisse permanente, quoi. Donc tout ça, ce que je vous ai lu, c'est de l'auteur, c'est de Charles Moeller, mais Le Terrier, c'est ça, en fait. Il est, tu sais pas où mettre, faut que tu vérifies tout le temps. Si y a pas quelqu'un qui te traque, qui t'est traqué, t'es angoissé, en permanence, quoi. Alors maintenant, chapitre suivant. L'absence de loi, donc aussi pour les christianismes, ça va aussi pour les christianismes folkloriques, ce que je vais vous dire, que des pères sceptiques essaient de transmettre à des fils qui se dérobent. L'enfant s'ennuie à la synagogue. Bon, tout comme l'enfant peut s'ennuyer à l'église. Bon, ça va partout. Parce qu'il ne comprend rien de ce qui s'y passe. D'accord ? Parce qu'il est laissé à lui-même. Tout le monde qui prie, qui raconte ses machins, bref, qui prie, ou qui prie pas, mais en tout cas, on se demande, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là, quand on est enfant Mais quand on a un père qui se... Que des pères sceptiques essaient de transmettre, quand il veut transmettre quelque chose, mais qu'il est sceptique déjà, lui, l'enfant est un peu... pas sceptique, mais bon, il n'est pas trop partant, quoi, tu vois. C'est ce qu'il dit. Mais à la synagogue, parce qu'il ne comprend rien de ce qui s'y passe. Parce qu'il est laissé à lui-même l'examen de confirmation. Tu ne peux pas confirmer si personne ne t'accompagne, tu vois. C'est ça qui est dit. Mais à savoir aussi que là, ce qui aide à faire, je crois, autant pour les communions chrétiennes que les bar mitzvahs juives... Enfin, là, peut-être moins pour les juifs, je sais pas, je n'étant pas juif, mais j'ai fait ma communion. Ce qui va peut-être appeler l'enfant, c'est les cadeaux. Ah, ça peut aider. Et pendant les bar mitzvah, je sais. Bon, je peux pas parler de cette culture, mais qui reçoivent un paquet de fric. Hein. Ouais, ça s'élève à plusieurs milliers, quoi. Ouais, c'est énorme. Hein, c'est... Enfin, bon, bref, passons. Voilà, donc on s'est dit, ensuite, si la religion juive ne s'est pas transmise, c'est parce que le père n'y croyait pas, n'y croyait plus. Parce que c'est ça aussi Kafka. Il est pas, il a pas de croyance, il croit pas, en tout cas, alors, il est agnostique, il croit pas en la religion juive. Son père aussi, apparemment. Parce qu'on comprend. Ses grands-parents, peut-être, au contraire, je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, la confiance en une certaine classe juive et l'estime de lui-même. Seule la foi vivante se transmet. Ça, c'est juste. La fissure de la chrétienté, les lézardes de l'édifice religieux sont encore difficiles à déceler, mais derrière une façade écaillée, l'intérieur est pourri. Certes, en France, une élite fera un retour aux valeurs spirituelles en réaction contre le naturalisme et le positivisme, encore. Mais, alors ça c'est pas mal, mais la masse est de plus en plus gagnée par l'athéisme. Alors, athéisme, c'est ça, c'est quand tu crois en rien. C'est ça. Agnostique, c'est quand t'as pas de religion, tu crois en aucune religion. Et athéisme, c'est quand tu crois en rien. Et la masse est de plus en plus gagnée par l'athéisme. Et donc là, il peut se sentir. Un athée va pas pouvoir se sentir coupable, peut-être. Et enfin, toute l'erreur, non. Une erreur va être ici, quoi. Selon moi, hein, je pense qu'il faut croire en quelque chose, ça c'est certain. L'ambivalence de toute vérité, attends, quoi qu'il en soit, on voit chez lui, donc chez Kafka, le sens de la culpabilité et de l'ambivalence de toute vérité ou de toute réalité. L'ironie, l'irrationnel, la dissonance, ces notes du tempérament moderne se trouvent dans celui de Kafka. Et donc ensuite, le sous-chapitre après, c'est nécessité d'une loi. Dans le grand chapitre, l'absence de loi. Nécessité d'une loi. Et là, il parle, je ne vais pas tout vous relire, mais que bon, Israël a vraiment. Bon, les mots, je vais peut-être les reprendre quand même, parce que fut longtemps une nation de martyrs, etc. L'argent venu des États-Unis eût été vain. Pour l'État sioniste, le sionisme n'eût été arraché à sans lui jamais. Ah, attends. L'État sioniste est né du courage. Sans lui, même l'argent venu des États-Unis eût été vain. Sans lui, jamais le sionisme n'eût été arraché à l'utopie. Donc, et ensuite, dans une métamorphose s'est produite peu à peu lorsque les Juifs se mêlèrent de la révolution russe, sans doute. Devant Dieu, le combat révolutionnaire n'était pas moins vain que les autres, mais il y avait dans la révolution un accent assez religieux pour couvrir parfois celui des traditions. Le courage militaire était absurde parce que la dernière victoire ne dépendait que de Dieu. Et là, il est écrit, sachant que Dieu seul est son vengeur. Aussi bien, au cours des siècles, Israël s'est retranché derrière de petits murs de la Halachah, sachant que Dieu seul est son vengeur. Et j'ai lu ça et je me suis dit, ils ont dû l'oublier. Ils ont dû oublier qu'ils avaient dit ça. Bon, après, Dieu seul est ton vengeur, ou alors le peuple. Ça, j'en avais déjà parlé. Le peuple élu de Dieu, c'est pas plus les juifs que les chrétiens, que les orthodoxes, que les juifs, oui, je l'ai déjà dit, que les musulmans, que tout, quoi. Que personne. Il n'y a pas de peuple élu. C'est ça que j'avais dit. Et là, bah, aujourd'hui, on en a. Si lui dit un truc comme ça, tu vois. Ce que j'ai dit moi, Johnny Kivbeck, eh ben c'est pas venu comme ça, quoi. Enfin, je l'ai pas. Oui, je l'ai dit, mais c'est parce que j'ai lu, quoi. C'est des recherches et ça vient pas tout seul dans ma tête, quoi. Tu vois, il y a des raisons, conséquences. cause et conséquence. Poser des questions, se poser des questions. J'arrête pas de vous le dire, vous comprenez rien, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Bah ouais, putain. La mission de l'écrivain, tiens, est de mener ce qui est isolé et mortel jusqu'à la vie infinie. De transformer ce qui est hasard en ce qui est conforme à la loi cosmique. Sa mission est prophétique. Dans ce contexte, Kafka oppose peuple de la Bible et masse d'aujourd'hui. La Bible, voix du peuple juif. Or, dans notre drame, vous usez de la Bible comme si elle était un fait historique et momifié. Et cela, c'est faux, dit Franz Kafka. Si je comprends bien, vous voulez porter sur la scène les masses d'aujourd'hui. Donc les masses, je répète, les masses d'aujourd'hui sont opposées au peuple de la Bible. Donc c'est aux incroyants, aux athées. Ces masses n'ont rien en commun avec la Bible. C'est là le noyau même de votre drame. Le peuple de la Bible est un rassemblement d'individus à travers une loi. Alors il parle de la Bible, mais... ça peut, moi, je pense que ça ne correspond à aucun livre saint, à mes yeux, ou à tous, tous ensemble. Tous ensemble, c'est... j'allais acheter les baskets, moi, quand j'étais petit. Alors, le peuple de la Bible est un rassemblement d'individus à travers une loi. Mais les masses d'aujourd'hui s'opposent à tout rassemblement. Ben ouais, carrément. Elles tendent vers la séparation parce qu'elles n'ont pas de communauté intérieure. De là provient la force qui actionne leurs infatigables agitations. Les masses se hâtent, courent, traversent au galop l'époque. Vers quoi vont-elles? D'où viennent-elles? Personne ne le sait. Elles usent leur force sans la moindre utilité. Elle croit qu'elle marche et cependant, elle se précipite tout en marchant sur place vers le but. C'est tout. L'homme a perdu sa patrie. Ça, c'est les paroles d'un croyant. Kafka, il y croit. Trump, il y croit pas. Lui, c'est un athée. Ce qui manque au monde, c'est un espoir spirituel, une loi, ce que Kafka appelle le pain de l'esprit, celui d'une vraie communion entre les hommes. Les hommes de 1920 qui n'avaient pas eu le temps d'avoir une jeunesse la récupéraient à 40 ans. Ils jouaient enfin aux gendarmes et aux voleurs en regardant les films de cow-boys dansant et clignotant, mais qui par le monde faisaient rêver les miséreux. Hollywood. Et si le cinéma se charge de nos questions métaphysiques, pour des milliards d'hommes, il n'est que la suite d'images grisâtres où des hommes jouent à voleurs aux Indiens. La télécouleur n'était peut-être pas très présente encore dans les années 50. Je ne sais même pas si elle existait. Non, c'est pas très important. Ce jeu devient dangereux quand la colonne vertébrale spirituelle est rompue. Le dadaïsme en est un indice. La colonne, parce que le dadaïsme, c'est le premier système à avoir dit non aux choses, non aux règles déjà établies. Moi je trouve ça, le dada, je trouve ça génial en soi. Mais, en fait, non. C'est peut-être le début de la fin. Bon, attends. La foi est rompue, écrit Charles Moller. Charles Moller. Oh, il écrit la foi est rompue. On ne peut la définir sans doute, mais elle s'appuie sur une attente portant plus loin que l'immédiat, vers un monde caché au-delà de l'évidence quotidienne. Hélas, selon Kafka, la vraie jeunesse, celle qui croit, est absente, car à la question lancée par une revue de Prague, existe-t-il un art jeune? Alors, je sais pas, perso. La guerre, la révolution russe et la misère du monde entier m'apparaissent comme une sorte de déluge du mal. Et je ne savais pas d'ailleurs que les juifs avaient participé, avaient fait présence, quoi, enfin, quelque chose avec la révolution russe. Ça, faut que je fouille. Bon, la guerre, la révolution russe et la misère du monde entier m'apparaissent comme une sorte de déluge du mal. C'est une inondation. La guerre a ouvert les écluses du mal. Les étais qui soutenaient l'existence humaine s'effondrent. Le devenir historique n'est plus porté par l'individu, mais seulement par les masses. On nous bouscule, on nous presse, on nous balaie. Nous subissons l'histoire. Le mouvement nous ôte la possibilité de voir. Notre conscience se rétrécit. Sans même que nous nous en apercevions, nous perdons connaissance sans perdre vie. Le mec, Kafka, qui écrit ça dans les années 20, quoi. Et il avait tout vu, quoi. Tu te rends compte ? Il avait tout vu, quoi. Maintenant, le sous-chapitre Kafka est un commencement, mais il est aussi un commencement. Car, mais qui ça ? Franz Kafka, je viens de te le dire. Car, à la différence de la génération née de Nietzsche, qui était avant, il ignore la révolte. La génération nietzschéenne n'a pas hésité à pratiquer le meurtre du père, lui, carrément, et à vivre comme si elle n'avait, la génération, ni père ni mère. Ainsi, la révolution a tué Dieu, puis le père, selon les mots de Camus, dans l'homme révolté. Les hommes sont alors affrontés à un univers sans loi, sans poteau indicateur jalonnant la route. Ce serait une victoire de la lucidité existentielle sur la mauvaise foi de ceux qui veulent se faire douillettement digérer par un univers plein de vérités métaphysiques et de tiédeur maternelle. L'homme est une passion inutile, affirme Sartre. Et de cette inutilité même, il faudrait dégager sa grandeur. C'est la perspective entière de sa vie qui se renverse ainsi. Le respect de son père avait beau être morbide chez Kafka. Il n'en a pas déduit qu'il pouvait tuer son père. Les lois que son père lui imposait, son père ne les pratiquait pas. Le fils n'en a pas inféré qu'il n'y avait pas de loi. Le monde inaccessible où son père légiférait était fait d'arbitraire et de puissance déchaînée. Kafka n'en a pas conclu que ce monde inaccessible, il ne fallait pas le vénérer. Ce qui n'existe pas que la grandeur de l'homme serait de créer seul son destin. Et là, je vais terminer par ça. Écoutez bien. Kafka témoigne d'une option plus fondamentale qui commande toutes les conversions, métaphysiques et religieuses. Deux petits points. Le choix d'un espoir redevenu humble, qui, au cœur de la plus terrible captivité de Babylone que Juifs d'Europe centrale aient jamais endurée, préfère s'accuser lui-même plutôt que de mettre en question le monde et de maudire l'univers, et choisit d'être devant les hommes et leur terre fraternelle, ce oui que le Christ fut devant son Père. Donc ce qu'il dit, là, c'est que au lieu d'en vouloir au monde entier, au monde, aux personnes, aux choses autour de soi, il faut se poser des questions.
ferme.